tout de suite les informations par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Il y a 20 ans, deux élèves ouvraient le feu en plein cœur de leur lycée et tuaient 12 adolescents et un professeur. 20 ans après la tuerie de Columbine aux États-Unis, le traumatisme est toujours là. Des commémorations ont lieu aujourd'hui. Nous irons à Washington dans un instant.
Par ailleurs, 55 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes aujourd'hui.
Pour un référendum sur la réforme constitutionnelle qui doit permettre au président Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2030, les opposants y voient un point final à l'esprit de la révolution et la bascule par la constitution vers un régime autoritaire. Reportage au Caire dans ce journal.
De nombreux hommages et des prières pour Notre-Dame encore hier soir.
Nous irons au Sacré-Cœur où des fidèles se sont rassemblés alors que s'achève ce week-end la Semaine Sainte. Et votre invitée Caroline est spécialiste de l'histoire du catholicisme.
Il s'appelle Denis Pelletier, il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et il travaille en effet sur le catholicisme contemporain et ses rapports avec la société.
Et puis nous ferons le point dans ce journal sur les lieux de rassemblement des Gilets jaunes aujourd'hui pour ce 23e samedi consécutif d'appel à manifester. C'était il y a 20 ans, le 20 avril 1999. Deux élèves pénétraient à l'intérieur du lycée de Littleton dans le Colorado et abattaient 12 de leurs camarades et un professeur avant de se suicider. Pour les rescapés et les familles des victimes, 20 ans après, le traumatisme est toujours présent. D'autant plus qu'à chaque anniversaire ou presque, l'établissement scolaire est visé par des menaces d'individus dérangés qui semblent fascinés par ces tueries en milieu scolaire. À Washington, Grégory Phillips.
Mercredi dernier, le lycée de Columbine a été fermé par mesure de sécurité, tout comme une vingtaine d'autres établissements du secteur, parce qu'une jeune femme de 18 ans, armée et considérée comme extrêmement dangereuse, avait menacé les écoles de la région de Denver. Après une traque de 24 heures, Sol Pais s'est suicidée, et ce trois jours avant la date anniversaire de Columbine. Le FBI a expliqué qu'elle avait développé une fascination pour le massacre d'il y a 20 ans. À l'école primaire de Sandy Hook aussi, dans le Connecticut, où 26 personnes, dont 20 jeunes enfants, ont été abattues en décembre 2012 par un individu armé. L'établissement a été l'an dernier la cible de menaces le jour anniversaire du drame. Une alerte à la bombe, tous les enfants ont dû être évacués, finalement sans incident. Aux menaces s'ajoute parfois la diffamation. À Sandy Hook, les parents des victimes font depuis le drame l'objet des pires rumeurs. Des complotistes américains expliquent sur les réseaux sociaux que la fusillade du 14 décembre a été inventée. Pour avoir dit que les parents en pleurs étaient des acteurs, le créateur du site internet InfoWars, Alex Jones, est maintenant poursuivi en justice. Mais les adeptes de la théorie du complot ont continué à harceler ses familles, accentuant encore un peu plus leur douleur. Le père d'une petite victime de Sandy Hook a fini par se donner la mort le mois dernier.
Grégory Phillips, le correspondant de France Culture à Washington. Il avait permis de stopper une vaste cyberattaque mondiale, celle du virus WannaCry en 2017, qui avait affecté des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde et paralysé des entreprises ainsi que des services publics, reconnus à l'époque comme un héros informatique, connu sous le pseudo MalwareTech. Marcus Hutchins, 24 ans, a plaidé coupable hier. Il a reconnu avoir créé et fait proliférer en 2014 et 2015 un logiciel destiné à attaquer le système bancaire. L'arrestation de ce jeune expert britannique en cybersécurité à l'été 2017 avait profondément choqué le monde de la sécurité informatique. Parce qu'elle avait osé dénoncer le harcèlement sexuel dont elle avait été victime, une jeune femme de 19 ans a été brûlée vive au Bangladesh. La mort de Nusrat a provoqué une vive émotion à travers ce pays très conservateur. Des milliers de personnes ont assisté à son enterrement. La première ministre du Bangladesh a promis que toutes les personnes impliquées dans cet assassinat seront traduites en justice. Valérie Crova.
Nusrat vivait à Feni, une petite ville située à 160 km de la capitale, Dhaka. Elle étudiait dans une madrasa, une école islamique. Fin mars, le directeur de l'école l'appelle dans son bureau et pratique des attouchements. Le jour même, Nusrat se rend au poste de police pour faire une déclaration. Le policier la filme avec son portable. On l'entend lui dire que ce n'est pas grand-chose. 11 jours plus tard, Nusrat retourne à l'école pour passer ses examens. Elle est attirée sur le toit. Un groupe de 5 personnes l'encercle et l'attache avec un foulard. Il lui demande de retirer sa plainte. Nusrat refuse. Elle est aspergée de kérosène puis s'enflamme. Nusrat sera brûlée à 80%. Sur son lit d'hôpital, la jeune fille enregistre une vidéo dans laquelle elle réitère ses accusations contre le directeur de l'école. « Je me battrai contre ce crime jusqu'à mon dernier souffle », dit-elle. Elle succombe à ses blessures le 10 avril. Depuis, 17 personnes ont été arrêtées, dont des camarades de classe de Nusrat qui l'avaient attiré sur le toit. Il voulait faire croire à un suicide. Le directeur de l'école, lui, est toujours en garde à vue. Une ONG de défense des droits des femmes a recensé 940 cas de viol au Bangladesh en 2018. Leur nombre réel est sûrement beaucoup plus élevé. De nombreuses jeunes femmes préfèrent en effet garder le silence, de peur d'être montrées du doigt.
Valérie Crova.
En Égypte, un référendum sur la constitution a lieu aujourd'hui. Le texte permettrait au président Al-Sissi de rester au pouvoir jusqu'en 2030.
Oui, Abdel Fattah Al-Sissi pourrait effectivement conserver la présidence pour 8 années supplémentaires après la fin de son mandat actuel. Parmi les amendements déjà approuvés par le Parlement mardi, le Raïs disposerait aussi du pouvoir de nommer les magistrats aux postes clés et entérinerait aussi des pouvoirs exceptionnels déjà accordés à l'armée. Depuis plusieurs semaines, la campagne en Égypte est exclusivement en faveur du oui. Le résultat du référendum d'aujourd'hui ne fait donc aucun doute, mais malgré tout, l'opposition essaye tant bien que mal de faire entendre sa voix au Caire. Martin Roux.
La place Tahrir s'est drapée d'immenses bannières. Sur ce point névralgique de la révolution de 2011 et partout dans la capitale, un seul slogan: voter oui à la réforme de la Constitution. Elle déroge à la limite des 2 mandats pour le chef de l'État, l'un des acquis majeurs des révolutionnaires. Mina était l'un d'eux, et pour s'opposer à cette régression, ce jeune chef d'entreprise qu'érode votre annon au référendum.
C'est la raison principale pour laquelle les gens ont manifesté en masse en 2011. Et déjà, nous voilà en train de répéter exactement les mêmes erreurs que celles du temps de Moubarak. On installe exactement le même système.
En effet, cette réforme institutionnalise davantage l'autoritarisme du président Al-Sissi, dénonce l'organisation Human Rights Watch, mais la voix des défenseurs des droits humains porte difficilement à l'intérieur du pays. Selon l'ONG NetBlocks, 34 000 sites internet ont été bloqués à l'approche du vote, dont ceux d'ONG, et cela pour empêcher la diffusion d'une pétition contre la réforme. Le faible bloc de l'opposition parlementaire est lui aussi muselé. C'est ce que déplore Mohamed Anwar El-Sadat, chef du parti Réforme et Développement.
La vie politique est morte en Égypte. Nous subissons des pressions depuis bien longtemps et nous n'avons aucune possibilité d'organiser des grands meetings. C'est uniquement réservé aux partisans du oui aux amendements.
Et dans cette Égypte verrouillée, le référendum qui débute aujourd'hui s'annonce déjà comme un plébiscite en faveur du président Al-Sissi.
Martin Roux au Caire pour France Culture. En Syrie, on apprend à l'instant que 27 soldats et combattants pro-régime ont été tués par le groupe État islamique en 2 jours selon une ONG. Les 2 candidats au second tour de l'élection présidentielle en Ukraine se sont affrontés hier soir pour un débat, ou plutôt 2 plaidoyers en parallèle sur 2 estrades différentes au cœur d'un stade de 70 000 places, le stade olympique de Kiev. Les 2 finalistes, Petro Poroshenko, président sortant et très en retard dans les sondages, étaient face à son rival et favori des estimations, l'homme de télévision Volodymyr Zelensky. Les 2 hommes ont défendu pendant 1 heure leur vision de l'Ukraine. Et bilan des courses, avantage pour Poroshenko. Nathaniel Chabonnier.
En foot, on parlerait d'une victoire à l'extérieur. On attendait l'homme de télévision Zelensky et on a eu droit à un show de son adversaire, le président sortant, Poroshenko.
Je vote Poroshenko et Poroshenko seulement parce que je veux que l'Ukraine soit un pays européen.
Poroshenko vainqueur, il faut dire que l'homme est un vieux renard politique. Il est apparu combatif et sûr de lui, alors que Zelensky beaucoup moins.
Parce qu'un candidat qui lit ses réponses avec un papier n'est pas digne de notre peuple héroïque.
Mais la victoire d'un soir n'est pas forcément celle de l'élection, car si Zelensky, le comique, ne connaît pas bien ses dossiers, il garde toutefois un réel atout, celui de la probité, capable de lutter contre la redoutable corruption en Ukraine. Et cet homme d'expliquer que c'est à cause de la corruption qu'il y a autant de problèmes, qu'il croit que la guerre serait déjà terminée s'il n'y avait pas de corruption, celle qui profite aux politiques, et de conclure: je suis sûr que si on lutte contre la corruption, tout changera et notre vie sera meilleure. Et celui qui à ses yeux représente cette lutte s'appelle Volodymyr Zelensky. Alors il n'a peut-être pas gagné le débat hier soir, mais il semble déjà avoir gagné le cœur d'une majorité d'électeurs.
Nathaniel Charbonnier, envoyé spécial de France Culture en Ukraine.
France Culture, 8h09, presque 10, suite du journal. Accéder au secret parmi les mieux gardés du Quai d'Orsay, eh bien c'est ce que proposera dès cette année le nouveau collège des hautes études de l'Institut diplomatique, Sophie.
Oui, le projet vient d'être présenté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Une formation inédite destinée à des cadres issus du secteur privé et public, pour laquelle les candidats peuvent postuler jusqu'au 15 mai prochain. L'objectif du ministère, c'est avant tout d'associer davantage la société civile civile à l'action diplomatique quotidienne de la France, Bertrand Galichet.
En proposant cette plongée dans les coulisses de la diplomatie française, le tout nouveau collège des hautes études de l'Institut diplomatique ne se contentera pas d'ouvrir les portes du Quai d'Orsay à la société civile. Les 40 candidats retenus auront accès au travail des diplomates. Agnès Van der Mulle, porte-parole du ministère.
L'idée, c'est de les placer vraiment au cœur du réacteur de notre action diplomatique. Donc ça suppose une habilitation confidentielle défense qui ne peut être délivrée qu'aux ressortissants français.
Une restriction, mais aussi la promesse de découvrir l'envers du décor pour les cadres dirigeants, aux fonctionnaires, élus et universitaires qui postuleront à cette formation d'une vingtaine de jours répartis sur 10 mois avec voyage d'études à l'étranger et simulation de gestion de crise. Maurice Gourdeau-Montagne, secrétaire général du Quai d'Orsay.
Nous sommes prêts à donner le maximum d'éléments, y compris ceux qu'on ne partage jamais avec personne. Il est évident que nous n'allons pas le faire avec des partenaires étrangers.
Au moment où le sort de l'École nationale d'administration est en jeu, le Quai d'Orsay assure que le Collège des hautes études de l'Institut diplomatique, conçu pour un public de 35-50 ans, n'est pas destiné à remplacer l'ENA.
En France, les Gilets jaunes appellent à nouveau à manifester pour ce 23e samedi consécutif depuis le 17 novembre dernier. Après la fin du grand débat national et le report des annonces d'Emmanuel Macron, qui s'exprimera finalement jeudi prochain, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, craint de nouvelles violences avec un possible retour des casseurs. Dans la capitale, deux manifestations ont été autorisées par la préfecture de police, même si les Gilets jaunes ont prévu d'autres rassemblements, Yann Gallic.
Tous à Paris, c'est le mot d'ordre qui a été lancé sur les réseaux sociaux par plusieurs groupes de gilets jaunes, y compris en région. Les principales figures du mouvement ont prévu de manifester dans les rues de la capitale, sans plus de précision pour l'instant sur l'heure et le lieu de rendez-vous. Les gilets jaunes fixent un nouvel ultimatum au président de la République en utilisant une rhétorique parfois menaçante. Certains appellent à se rassembler de manière non pacifique et à braver l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Interdiction également de défiler près de l'Assemblée nationale et du Sénat, et sur toute l'île de la cité, notamment aux abords de la cathédrale Notre-Dame. Le préfet de police a reçu 4 déclarations de manifestation, mais n'en a autorisé que 2. La première entre la basilique de Saint-Denis et le campus universitaire de Jussieu, dans le 5e arrondissement. La deuxième rejoindra la place de la République, mais il devrait y avoir plusieurs cortèges non déclarés à Paris, des défilés qui pourraient provoquer de nouveaux débordements.
Yann Gallic, 60 000 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays, notamment dans les grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Paris. Les grands tableaux de Notre-Dame ont été décrochés hier soir. Ils seront stockés au Louvre en attendant la restauration de la cathédrale après l'incendie qui a défiguré l'édifice lundi soir. Les images des flammes et de l'écroulement de la flèche et du toit ont fortement marqué les esprits toute cette semaine, alors que cet incendie est survenu en plein cœur de la Semaine Sainte qui s'achève ce week-end. Hier soir, lors du Vendredi Saint à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, le sujet était encore dans toutes les têtes des croyants, Antoine Geoffin.
En haut des marches du Sacré-Cœur, 3 fidèles à genoux face à la foule, une grande croix chacun dans les bras. Ils encadrent la cathédrale Notre-Dame, visible 4 km au sud. L'incendie, c'était lundi et il est encore dans la tête de Cléor. Son chapelet à la main, elle sort du Sacré-Cœur où elle a beaucoup prié pour la cathédrale.
J'étais assis à l'église, je pensais tout le temps à Notre-Dame, ce qui s'est passé. On a beaucoup de peine et on prie le Seigneur qu'il mette vite des tentes pour couvrir la cathédrale. Au cas qu'il y ait de la pluie, au cas qu'il y ait du vent, on dit que ça va rester au moins 15 ans en travaux. Mais j'ai 78 ans, je ne sais pas dans 15 ans si je vais retourner pour entrer à la cathédrale.
Eda priait à l'intérieur de Notre-Dame quand le feu est parti. Elle devait y être ce Vendredi Saint, mais elle s'est reportée sur le Sacré-Cœur avec ses souvenirs encore marquants.
Ça a commencé, nous avons pris une odeur de fumée, on croyait que c'était les bougies. Et on nous a évacués, mais vous savez, j'avais l'impression que quelque chose sortait de mes entrailles. Psychologiquement, je vais vous dire franchement, psychologiquement, c'est dur qu'elle revive, qu'on cache ce trou béant. C'est ce trou qui me fait mal.
Même constat pour André, ce Congolais souffre dans sa chair.
Depuis lundi, j'ai renforcé ma dose de prière. Je pleure, Paris pleure, ça fait 3 jours. Je ne dors pas bien, j'ai le cauchemar, messieurs. Comment on peut reconstruire cet édifice-là? Notre-Dame, hein, on va le reconstruire. Moi, l'espoir, j'en ai toujours.
Le recteur du Sacré-Cœur voit Notre-Dame comme une mère que la basilique veut aider. Le Sacré-Cœur envisage de reverser une partie des dons de ses fidèles pour reconstruire la cathédrale.
Juste après ce journal, nous retrouverons notre invité, Caroline, c'est Denis Pelletier, historien du catholicisme et de ses rapports avec la société. Un point sur le temps, en quelques mots, du soleil presque partout aujourd'hui, à l'exception du nord de l'Auvergne et du sud-ouest de la Bourgogne, où quelques averses sont annoncées. Les températures sont douces, comprises entre 14 et 21 degrés ce matin.